19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes ensemble, justement, pour analyser, commenter et décrypter l'actualité, ici même dans les informés. Alors au menu jusqu'à 20h, nous vous proposons tout simplement, eh bien, de commenter trois sujets. Tiens, Christine Taubira, qui envisage d'être candidate à l'élection présidentielle. Mais j'ai envie de dire à Christiane Taubira, enfin, effectivement, de la diversité dans ce paysage politique. Je parle de diversité d'origine, bien sûr. Peut-être qu'elle va secouer le paysage et que le paysage politique en a besoin. Ensuite, direction, eh bien, tout simplement, la percée de Valérie Pécresse qui se confirme selon un sondage. Et la question que je poserai, peut-elle l'emporter ? Effectivement, c'est dans les esprits de beaucoup de personnes. Et ensuite, nous irons avec ce témoignage très émouvant de Francis Palombi, qui est le président donc, des confédérations de commerçants, qui, lui, a décidé de médiatiser eh bien, son passage en réanimation. Il a passé quelques jours, il n'était pas vacciné, et il invite tout le monde aujourd'hui vraiment à se faire vacciner. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là une... On va se poser la question, hein, même si l'interview est et le témoignage sont évidemment dans l'émotion. On aura évidemment l'occasion de diffuser un extrait tout à l'heure, mais on reviendra sur cette actualité. Les informés, c'est parti, c'est tout de suite et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Alors, eh bien écoutez les amis, à 19h30, j'ai oublié aussi, hein, on a Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale, qui viendra signer son billet d'humeur avec Zemmour et face à Baba, c'était hier soir sur la chaîne C8 d'ailleurs, qui a fait un carton d'audience. Hein.
2,2 millions exactement.
C'est ça, vous êtes au courant de tout vous ?
Ah bah oui, ouais. Là, je suis journaliste.
Bonjour Mehdi Jaziri.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va vous ?
Très bien, super. Ravi de vous retrouver. Monsieur le maire adjoint, ça va ?
Amine. Très bien, et vous, Adil Farkan ?
Amine, ça va ? Très bien. Tout va bien ? Vous m'avez l'air en forme.
On essaye.
Face à vous, c'est Nadia Cherif. Quel retour !
Mais oui, contente d'être parmi vous.
Bah oui, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez déserté le terrain ?
Ah bah des cours de yoga, des projets associatifs, et puis justement, travailler avec les différents thèmes de l'actualité.
Voilà. Les différents thèmes de l'actualité, je le rappelle, vous êtes militante et vous êtes complètement engagée. On a Abdeslamitech qui doit être certainement coincé dans les bouchons. C'est pas de sa nature, mais...
Départ en vacances ce soir.
Départ en vacances ce soir, donc il est certainement coincé. C'est possible. Allez messieurs et madame, messieurs, tout de suite nous commençons avec ce premier sujet. Bien sûr, le standard est ouvert au 01 53 48 3000. Et je vous attends bien sûr si vous souhaitez commenter là... Eh bien, la petite vidéo donc réalisée par Christiane Taubira qui désormais a décidé et qui envisage de se lancer dans la présidentielle. Elle dit réunissons-nous. Bref, elle propose en tout cas certaines choses. On va écouter un petit extrait qui, moi, a retenu mon attention et on revient en parler là-dessus. Après, pardon. À tout de suite.
Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié, mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française.
Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, évidemment, Christiane Taubira, avec ce qu'elle vient de... C'est une des déclarations, hein, la vidéo fait un peu plus de 3 minutes. Nadia Cherif, alors, elle veut sauver le PS, elle veut sauver la gauche, elle veut sauver qui ?
Elle veut sauver le PS et surtout, elle veut sauver la France. Alors, est-ce que c'est un sacrifice ?
Elle veut sauver la France, vous y allez fort, là.
Bah, bien sûr, mais est-ce que c'est un sacrifice ? Parce qu'elle arrive vraiment à la dernière minute. Tant mieux, hein, il n'est jamais trop tard, hein, il ne faut rien lâcher, comme on dit souvent. Mais pourquoi maintenant ?
Pourquoi maintenant ? Bah écoutez, parce que peut-être qu'elle a senti qu'il y avait en tout cas une raison valable aujourd'hui d'y aller. Amène ça.
Azil Farkan, moi depuis maintenant quelques jours, j'ai quand même repris quelques couleurs. Depuis l'annonce d'Anne Hidalgo, je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis l'annonce courageuse et responsable d'Anne Hidalgo, la gauche, même si elle le fait par médias interposés, elle se parle enfin. Alors, c'est pas encore la période des grands amours, mais au moins elle se parle et ça a eu l'avantage de susciter le débat. Notamment pour créer cette démarche constructive qu'a voulu Anne Hidalgo autour de cette primaire. Et donc je crois qu'il faut absolument le saluer.
Le retour de la gauche ?
En tout cas, il y a un débat qui est suscité et je crois que si on veut porter un projet ambitieux avec un candidat unique, je crois que la solution, c'est notamment de se parler, de débattre et peut-être aussi d'envisager une primaire sereine autour des candidats qui se sont d'ores et déjà déclarés.
Donc une primaire alors, envisager une primaire.
Bien entendu.
Une primaire, pourquoi ? Parce que les primaires ont déjà eu lieu, me semble-t-il.
Oui, mais qu'est-ce qui nous empêche de continuer de discuter d'abord ? Et puis on le voit bien, l'éparpillement, la dispersion des candidats, qu'est-ce que nous disent les électeurs ? Ils nous disent, ils boudent en réalité les électeurs, et les sondages le montrent bien. La plupart des sondages qui ont été faits ces derniers jours, notamment sur la question de la primaire, montrent que les sympathisants de gauche veulent cette primaire, veulent ce débat interne à la gauche, et je crois qu'il faut l'avoir sereinement. Moi, je ne comprends pas les oppositions à cette volonté de débattre au sein de la gauche.
46% des électeurs de gauche seraient prêts à voter pour Christiane Taubira, c'est énorme.
C'est en effet intéressant.
Elle est attendue.
Je crois que son annonce a suscité de l'engouement. On le voit bien, notamment chez les jeunes, on en parlait tout à l'heure. les jeunes qui sont souvent très éloignés du vote. Et je crois que ça a eu au moins le mérite de susciter cet engouement.
Cet engouement, justement, on va aller s'intéresser à un jeune journaliste, un jeune tout court, qui est lui, effectivement, est-ce que la garde des Sceaux, l'ancienne garde des Sceaux, pardon, l'ex-garde des Sceaux, qui envisage d'être candidate à la présidentielle, évidemment, vous parle, mon cher Mehdi Jaziri.
Bah, écoutez, moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, exactement, quand j'étais venu, je ne suis pas du tout contre les idées qui rassemblent, les personnages qui rassemblent. Là, on a vu dans sa vidéo, bon, elle avait l'air très sympathique. Maintenant, moi, je veux en voir plus. Je veux plus d'idées. Je veux plus de propositions. Là, elle a dit qu'elle envisagerait d'être candidate.
Rendez-vous mi-janvier.
Voilà. En fait, je pense que concrètement, c'est encore trop tôt pour se dire est-ce que ça va être la bonne candidate ou pas. Là, je pense que le problème premier maintenant, c'est quel est le gros bordel à la gauche en ce moment. Vous disiez tout à l'heure, monsieur, excusez-moi.
Amine Sarr,
excusez-moi. Vous disiez que vous saviez pas exactement comment ça se fait, que y a pas de dialogue, qu'ils sont pas tous réunis. Moi, je sais pourquoi. C'est un problème d'ego. C'est un problème d'ego.
Bien sûr.
Regardez Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon a un boulard énorme. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est un fait.
Allez, lâchez-vous.
Non mais je préfère être clair là-dessus. Enfin, je veux dire, aujourd'hui
ça vous agace.
Non mais chacun pense être le héros de la France. Ils ont pas compris qu'en fait, les présidentielles, la démocratie, ça ne fonctionne pas comme ça. On n'attend pas un roi, on attend un président. On attend quelqu'un qui peut rassembler. En fait, on dirait que c'est difficile à comprendre. On a l'impression que chacun en fait veut comme à l'époque avec le roi Arthur veut tirer l'épée du socle. Enfin, je veux dire, c'est ridicule, c'est grotesque. Excusez-moi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que chacun, parce que même Madame Taubira va venir, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement ? Elle va parler à Jean-Luc Mélenchon ? Qu'est-ce qu'il va lui dire, Jean-Luc Mélenchon ? Très bien, Madame Taubira, vous avez raison. Réunissons-nous, jamais de la vie. C'est ridicule.
C'est vrai.
Jamais de la vie.
Je vais aller m'intéresser pour voir effectivement les autres qu'est-ce qu'ils en pensent. Oui. Vous dites les choses évidemment comme vous le sentez. Et Abdeslam Itache, bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va ?
Bonsoir.
Ça y est, vous êtes sorti des bouchons.
Ouais, alors ça fait 10 minutes que je tourne pour essayer de trouver une place. Donc, j'étais à l'heure.
J'adore. À l'heure, mais il tourne. Effectivement. Abdeslam Itache, quel est votre point de vue ? Christiane Taubira.
Alors, je partage déjà cette analyse.
Par Mehdi Jaziri.
Ici même, il y a une semaine, j'avais demandé à une représentante de la France Insoumise si elle était prête, dans le cadre du rassemblement, de permettre à un autre candidat que Mélenchon de porter les couleurs de la gauche. Elle m'a dit, mais qui d'autre que Mélenchon pourrait porter les couleurs de la
gauche ?
Vous
avez raison, elle a répondu.
Eh bien, Christiane Taubira pourrait incarner cette image. Mais je tiens quand même à rappeler un petit peu d'histoire. Rappelons-nous qu'en 2002, c'est quand même elle qui a empêché Lionel Jospin d'être au deuxième tour. Elle et Jean-Pierre Chevènement, puisqu'ils avaient présenté chacun une liste. Et de ce fait, le Parti Socialiste n'avait pas de candidat au second tour, puisqu'on s'était retrouvé avec un Chirac Le Pen. Aujourd'hui, moi, c'est une femme que j'apprécie, une femme de valeur et qui s'est battue sur par exemple le problème de l'esclavage et de la reconnaissance de ce génocide, ce drame. Elle pourrait en effet rassembler cette gauche. Moi, je vois pas d'objection. Je rappelle juste l'histoire, les faits sont têtus. À l'époque, en 2002, c'est quand même elle qui empêche la gauche de passer à la présidentielle, et du coup Chirac en 95 devient président, un septennat et ensuite un quinquennat. Voilà, moi, vous savez, je vais vous dire une chose, que la gauche règle ses affaires, comme vous le savez, je ne suis pas de gauche, et moi, je me dis juste une chose. C'est qu'aujourd'hui, et ça, je le déplore, c'est que la gauche, en fait, a ce devoir d'inventaire qu'elle n'a toujours pas réalisé et qui ne reconnaît toujours pas sa débâcle. Si aujourd'hui, la gauche en est à ce stade-là, c'est qu'à un moment, il faut se poser les bonnes questions. Et en effet, Mélenchon ne cédera jamais sa place, ne refusera qu'il y ait un autre candidat que lui, parce que justement, on est dans le tout un égo.
Oui. C'est pas faux, effectivement, 19h10, si vous venez de nous retrouver, le standard est ouvert. 01 53 48 3000, je vous attends partout en France, venez réagir sur le témoignage, la vidéo, donc réalisée par l'ex-garde des Sceaux, Christiane Taubira. La question que je vous pose, et on fait un tour de table, finalement, est-ce qu'elle vient pas aussi colorer un peu ce paysage politique qui est tout blanc? Pardonnez-moi évidemment d'être trivial, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'elle représente en quelque sorte aussi, y compris la diversité dans tout ce qu'elle peut représenter, c'est-à-dire y compris les origines.
Oui, non, mais c'est
Nadia Sherif.
C'est une femme. Ensuite, bon, c'est pas la seule, mais ensuite, effectivement, elle est, on va dire qu'elle est colorée. Mais j'ai envie de dire.
Ça peut être l'Obama.
Enfin, oui, ça peut l'être, mais d'un autre côté, elle n'est pas non plus. Parisienne pure souche, on va dire, parce que c'est ce qu'on reproche aussi à d'autres personnes, c'est de rester dans l'entre-soi et de ne pas être rattaché à la base, c'est-à-dire ne pas savoir ce que l'électorat veut. Et moi, j'apprécie ce que vous disiez, excusez-moi.
Mehdi Jaziri,
c'est que les jeunes aussi ont besoin de preuves, les jeunes aussi ont besoin de s'accrocher à justement des projets, des propositions pour aller voter. Et il est là le gros souci. Alors si elle peut le faire, alors que c'est une femme, on sait tous que c'est une femme d'action.
Obama, la française. Je vais vous entendre, je vais juste, comme j'ai demandé évidemment à nos auditeurs d'exprimer leur point de vue, vous le savez, ils sont aussi prioritaires que vous. Mm-hmm. Majid de la ville d'Argenteuil. Bonsoir Majid.
Bonsoir.
Bienvenue.
Bienvenue, bah merci beaucoup de me laisser un petit temps de parole. Moi, je voulais juste revenir un peu sur la gauche actuellement, hein,
oui.
Qui est un peu dispersée. On va pas se mentir, on a l'impression d'avoir une gauche qui n'existe plus et qui ne réagit plus, surtout. Mmh. Et c'est ça que j'espère que Taubira va réussir à faire et à réconcilier.
Est-ce que le fait que Taubira vienne avec son, évidemment, sa vidéo, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que c'est quelque chose qui peut bousculer les lignes dans les prochaines semaines quand on va commencer évidemment à parler de la campagne présidentielle?
Ah, c'est clair. Mais il faut qu'elle bouscule tout, comme l'a dit l'intervenant, c'est qu'il faut qu'elle bouscule tous les égos. Elle bouscule Mélenchon, il faut absolument qu'il y ait quelqu'un qui représente la gauche et qui soulève un petit peu contre toute cette extrême droite.
La gauche et la diversité.
Et la diversité, et qui se batte contre un peu le zémourisme là qui est en train d'envahir notre pays. C'est ça qu'il faut. Mmh. Et il faut aussi une chose, c'est que nos compatriotes votent. Aujourd'hui, il faut qu'ils votent. Nous, on ne vote pas.
Il a raison, Majid. On a beau vouloir mettre en avant, évidemment, plein de candidatures. Mais si les quartiers populaires ne votent pas, Majid, c'est vrai, vous avez raison.
Il faut qu'ils votent. Il faut leur donner, justement, le choix en leur disant si vous votez, vous avez des voix et vous pouvez peser sur la communauté française. Parce qu'aujourd'hui, on nous pointe du doigt. On est en train de nous stigmatiser, nous ostraciser en disant vous êtes la communauté qui foutait le bordel en France. C'est faux. On est la communauté qui a bâti la France aussi. C'est ça qu'il faut dire, c'est ça. Et j'espère que Taubira et que d'autres personnes vont porter notre voix, parce que moi j'en ai marre d'entendre des Zemmour, d'entendre des Ciotti, d'entendre des gens qui nous polluent les médias et qui sont soutenus par des Bolloré, voilà, et des gens qui nous vomissent. Et ça me... Excusez-moi, hein, j'ai un peu le verbe un peu dur, mais aujourd'hui je suis dégoûté de ce qui se passe en France.
C'est aussi ça, les informer sur BFM, c'est d'avoir évidemment de l'agacement. Majid, merci d'Argenteuil, faites comme Majid. 01 53 48 3000 partout en France. Je voudrais vous entendre là sur ce sujet-là, effectivement. Il a raison, la seule arme, finalement. Qu'est-ce que vous dites à la Courneuve, à vos habitants? Qu'est-ce que vous dites à cette jeunesse? Vous leur dites, vous êtes maire adjoint, donc vous êtes censé leur parler, leur...
Moi je leur dis d'abord
est-ce que vous avez le sentiment qu'il y ait cette prise de conscience pour aller
bien
s'intéresser.
Bien sûr, sauf qu'aujourd'hui, l'offre politique, on l'a bien vu jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, elle n'était pas suffisante pour représenter l'ensemble de nos compatriotes français. Mais moi, ce que je voudrais dire au sujet de Christiane Taubira, d'abord, c'est une femme de conviction, une femme de combat. C'est ça la première chose qu'il faut. Et en plus, une femme d'État, puisqu'elle a exercé un certain nombre de responsabilités. Et je crois que des responsabilités régaliennes, en effet. Mais je crois que sa candidature, elle va parler notamment aux quartiers populaires, aux comment dire aux classes modestes. Et puis en plus, bon, ça c'est un petit plus, c'est quand même une excellente oratrice. Et je crois que la gauche avait aussi besoin d'un tribun.
Elle a du charisme.
Au-delà de Jean-Luc
Mélenchon, elle est charismatique.
Elle est charismatique.
Elle fait preuve, ce qu'on veut.
Voilà. Et je crois.
Elle a du charisme, elle est femme, elle est noire,
bien sûr.
Elle est courageuse, elle a toutes les qualités. Est-ce que vous partagez cela? Je voudrais vous entendre. 01 53 48 3000.
Alors évidemment, elle va parler aussi à la diversité, et ça, tant mieux.
Ah bah évidemment.
Et enfin, je voudrais dire quand même que dans ce débat politique, il y a quand même les femmes ont pris leurs responsabilités. Je crois que les hommes doivent maintenant prendre les leurs.
01 53 48 3000, je vous attends. On va marquer la première pause pub. On écoutera Mehdi Jaziri, Abdeslam Itach, Nadia Cherif, justement sur la question de la diversité, sur ce qu'elle peut incarner. Est-ce que ça parle au quartier populaire, à notre jeunesse, à tout cela? Nous nous retrouvons dans une poignée de minutes. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
Il est 19h21 précisément. Les informés avec Nadia Cherif, les informés avec Abdeslam Itach, les informés également avec Amin Saha. Et enfin, les informés, c'est aussi avec Mehdi Jaziri.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Tout de suite, on vous attend au standard au 01 53 48 3000. Taubira, candidate des milliers d'électeurs de gauche, comme dit notre maire adjoint de la Courneuve, Amine Saha, qui frémissent d'espoir et d'impatience. C'est ce que je lis. Largement en tête des sollicitations sur le site de la primaire populaire. Eh bien, sachez une chose, c'est que Christiane Taubira, justement, je pense qu'elle est emportée, elle est galvanisée, elle doit être, je sais pas, une espèce de truc à la Obama. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure.
C'est vrai.
Et je pense, sachez-le, vraiment, c'est ce qui va se produire. Je vous le dis, je pense que Pécresse-Macron, là, à ce moment-là, oui, on peut parler d'une véritable campagne intéressante. Moi, je pense que quand Christiane Taubira commencera, évidemment, à faire campagne. Nadia Cherif.
Oui, si elle arrive à fédérer toute la France, et notamment les gens des banlieues qui ont du mal.
Elle est dans l'empathie.
Oui, elle est dans l'empathie.
Elle va diaboliser les gens de la banlieue, oui, les quartiers populaires.
Oui, c'est très bien, les quartiers populaires, les banlieues, les endroits où on a de gros besoins. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, l'État est démissionnaire de certains endroits. Et les personnes, les citoyens qui y habitent, on en a assez des promesses non tenues. Mmh. Moi, je vis en ce moment dans une ville qui s'appelle Clichy-sous-Bois. Et ils font vraiment le maximum. Chacun fait ce qu'il peut. Mais il y a toujours ce problème de pauvreté, d'inégalité face au transport, c'est chaotique. Inégalité face à l'éducation nationale, c'est chaotique. Inégalité face aux violences, quelles qu'elles soient. Donc, et ce n'est pas la seule ville. Moi, je parle de ce que je vois, mais il y en a d'autres. Donc, comment faire pour que ces personnes qui habitent dans ces villes et qui disent depuis 40 ans, c'est la même chose, j'aimerais qu'elles nous donnent un programme. Oui, et là, peut-être.
Christiane Taubira, Mehdi Jaziri, à la Obama, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça parle, ça? Ça y est, la France est prête?
Alors non.
Non.
Non, parce que je vais vous dire quelque chose.
Mérite d'être clair.
Mehdi, il est clair. Non.
Christiane Taubira ne doit pas être la candidate des États-Unis. Christiane Taubira ne doit pas être la candidate des hommes noirs et des femmes noires. Christiane Taubira ne doit pas être la candidate des quartiers. Christiane Taubira, en réalité, doit être la candidate de la France entière, pour la France entière. Élu par la France entière. Donc en fait, si vous voulez, c'est une preuve encore une fois de ce que je disais la semaine dernière. On subit depuis des années l'américanisation de la France. Voilà. Désolé de faire mon Zemmour là-dessus, mais sincèrement, à quelle heure on va aller?
Ça fait sourire Amine Saha.
Non mais sincèrement, excusez-moi, mais je trouve aujourd'hui qu'on tombe dans un jeu ridicule. On a la dame noire, on a le riche. On a le monsieur pas content, la Mélenchon à l'autre côté. On a la petite bobo parisienne, Hidalgo. De l'autre côté, on a Marine Le Pen, la fille Renier. La fille Renier, carrément, on peut le dire. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, où est-ce qu'on va? On est dans un casting de cinéma ou quoi?
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des filtres. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des filtres? Et est-ce que ça veut dire aussi que les gens qui viennent de partout, parce que effectivement, faut arrêter de dire la diversité, donc les Maghrébins, les Africains, les ceci. Moi, j'ai envie de dire tout le monde. Même la personne qui vient de la Creuse, elle a le droit de se présenter aux élections. Dans ce cas, il y a un filtre. Pourquoi il n'y a pas assez de candidats au présidentiel? Et donc, qui représentent les partis?
Non, mais je pense que la démocratie fait bien son travail. On a un tas de candidats, et la preuve avec Poutou, avec Cheminade, et des candidatures qui font 0,5%. Donc, non, moi, je pense pas que de ce côté-là, il y a un vrai déficit. Ensuite, moi, sur la campagne à la Obama, moi, je voterai pour quelqu'un qui porte mes idées, qui me ressemble au niveau des idées, mais qui ne me ressemble pas au niveau de la couleur. Et je pense que la France, aujourd'hui, n'est pas prête. Alors, pour le coup, et comprenez mon propos, qui ne sont pas déformés, elle porte deux handicaps. La première, c'est une femme. On a du mal à élire une femme présidente, et on ne l'a jamais fait. On a eu une fois une femme Premier ministre.
Vous avez le droit
Faut voir ce qu'elle a pris quand elle a été Premier ministre. Et en plus de ça, c'est une femme de couleur. Et moi, je pense qu'en France, on n'est pas encore prêt. Et quand je dis 11, c'est un 11
personnel. Si elle était prête,
on ne sait jamais. Mais c'est la chance, la France.
Ça, alors attendez, dans l'ordre, Nadia, Amine, c'est Mehdi.
La France, elle est prête. On est prête. On est quand même en 2021, j'ose le dire. Et on est féministe quand même.
2021 n'est pas une excuse à tout quand même.
Mais
je pense pas que 2021 est une excuse à tout.
Non, c'est pas une excuse à tout, mais ça veut dire qu'on est arrivé au point où aujourd'hui, moi, je peux pas me permettre de penser que sous prétexte qu'on est une femme, on va être évité. Non, mais c'est pas ça
qu'il faut voir. C'est pas, en fait, si vous voulez, une pensée, c'est un fait. Malheureusement, c'est le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui, bon, il y a la montée du racisme.
C'est
ça, on le sait. Avec les réseaux sociaux qui disent tout et n'importe quoi. On a, le sexisme, ça existe depuis tellement longtemps. On arrive à évoluer avec le temps. Mais n'oubliez pas aussi qu'on a de l'autre côté la montée des féministes extrémistes aussi qui jouent et qui créent de la haine dans l'autre sens. Ce n'est pas une pensée. Heureusement qu'on ne pense pas comme ça. Oui. Heureusement. Mm-hmm. Mais c'est un fait, malheureux. C'est malheureux. Excusez-moi.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des quotas?
Non, mais.
Parce que récemment,
les quotas ont toujours été très insultants.
Je rebondis là-dessus parce qu'à un moment donné, il faut faire bouger les lignes.
Moi, je suis totalement d'accord avec vous. Il faut faire bouger les lignes. En revanche, si vous voulez vraiment faire bouger les lignes, je pense qu'il faut justement informer, essayer de parler. De montrer qu'une femme peut être présidente, mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas encore.
J'ai de l'espoir, je peux pas dire.
Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas que la France n'est pas prête, c'est qu'on a des idiots qui gangrènent le pays. Oui. Voilà. Oui. Non, mais qu'on se dise, voilà, le plus gros problème de la France, ce n'est pas le président, ce n'est pas le ministre, c'est le français. Désolé.
Voilà, attention, vous allez vous faire déchirer. Attention.
Mais je suis là pour raconter des faits. Bon.
Oui, non, mais
là,
ça,
on va
c'est
vous dire
fait.
La
mais
vérité.
Moi, je suis désolée depuis que je suis au monde, je dis régulièrement, les femmes peuvent tout faire, y compris être président de la République.
Mais bien sûr.
Le débat, il est là où on le met. Abdeslam Itaj vient de le dire. La France, jusqu'ici, elle n'était pas prête à avoir une présidente de la diversité et une femme. Enfin, moi, ce que je souhaite, et je rejoins ce que disait Mehdi Jaziri, c'est qu'il faut qu'on sorte de ce débat, tout simplement. Moi, ce que je veux retenir des femmes qui concourent pour cette élection, c'est d'abord, quelle qu'elle soit, peu importe d'où elles viennent, d'ailleurs, à la fois les convictions, la cohérence, les combats qu'elles ont menés. C'est ça qui m'intéresse. Et évidemment les responsabilités qu'elles ont occupées. Et je crois que c'est ça qui doit guider notre vote lors des prochaines élections présidentielles.
Et bien sûr. Surtout,
mais vous savez que le président, vous le savez, ce qui compte aussi dans la campagne présidentielle, c'est d'abord le charisme, le profil, l'aura, les
excellents
communicants.
Il faut qu'on sorte de la candidature présidentielle.
On n'est pas un casting de cinéma.
Il faut en sortir.
C'est aussi ça, la campagne présidentielle. 19h30, comme tous les jours d'ailleurs, et chaque vendredi, c'est Michel Taube, tout de suite.
Les informés, le Quad 9.
Bonsoir, mon cher Michel Taube, comment ça va?
Ça va très bien, et vous, Adil?
Mais bonjour, très bien, je vous remercie.
Tous vos auditeurs.
Le patron d'Opinion Internationale, vous êtes aussi éditorialiste. Dites-moi, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur, justement, sur Éric Zemmour, hier, face à Baba, sur C8.
Baba Cyril Hanouna. Alors en fait, après le flop du président de la République Emmanuel Macron sur TF1 mercredi, je dis le flop parce qu'il n'a eu que 3 millions de...
4 millions, 3 millions 8.
Ouais, voilà. Mais bon, enfin, c'était quand même 10 fois moins que lorsqu'il s'est adressé aux Français à plusieurs reprises sur le Covid, et franchement, c'était un relatif échec. Cyril Hanouna, il a fait un carton hier soir, 2 millions... 500 000 auditeurs sur son émission Face à Baba avec avec Éric Zemmour. Et en fait, moi, j'ai trouvé que c'était une émission très très bien construite, très vivante, très dynamique, où effectivement, on ne s'est pas ennuyé. Mais ce que je trouve absolument hallucinant, c'est que c'est Cyril Hanouna qui pourtant est très très critique contre les idées d'Éric Zemmour. Il l'a toujours dit. Il n'est pas du tout d'accord avec lui sur sa vision de la France et encore moins les solutions qu'il veut apporter. Mais paradoxalement, c'est Cyril Hanouna qui a réussi à donner, je trouve, à Éric Zemmour un côté un peu plus fréquentable et un peu plus modéré qu'il ne l'a paru jusque-là. Oui. Et on a vu quelque chose d'assez hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait, Zemmour n'était pas le grand méchant que l'on présente très souvent, et c'est plus par exemple Alexis Corbière des Insoumis et d'autres intervenants qui ont paru comme étant beaucoup plus extrémistes, beaucoup plus vindicatifs, beaucoup plus virulents, beaucoup plus agressifs qu'Éric Zemmour. Et donc je trouve ça vraiment très étonnant, et je voulais insister là-dessus et dire aussi que Éric Zemmour est en train, comme l'a fait Marine Le Pen depuis 10 ans, hein, d'essayer, mais de façon très très accélérée, parce que évidemment il est entré en politique il y a un mois, d'essayer de s'habiller encore une fois de façon beaucoup plus fréquentable et de se recentrer un peu, alors je dis un peu, hein, mais voilà, il est dans une sorte de mue politique, mais cette mue politique, c'est chez Cyril Hanouna qui l'a vraiment commencé à la faire. Cyril Hanouna, qui encore une fois est peut-être des animateurs et des journalistes français, un de ceux qui est le plus opposé à Éric Zemmour. Donc voilà, je trouvais ça assez paradoxal à souligner, et peut-être un dernier clin d'œil, c'est quand même marrant de voir que ce sont deux Méditerranéens, Cyril Hanouna et Éric Zemmour, qui faisaient la une de la vie politique française hier. C'est quand même un signe de ce que la France est devenue finalement un pays de la diversité, quoi qu'en dise Éric Zemmour. Voilà.
Effectivement, vous avez raison, mon cher Michel Taube. Vous l'avez trouvé extrêmement bon hier, Éric Zemmour, sur le plateau, dans l'ensemble, que...
Moi, je l'ai trouvé bon.
Que
moi,
dit le communicant?
Moi, je trouve qu'il était bon. Je pense qu'il est rentré en politique de façon fracassante, avec des outrances multiples sur l'islam, sur Vichy, sur plein de sujets, surtout d'histoire. Et là, je trouve qu'il est en train d'essayer de se donner, encore une fois, des allures un petit peu plus douces, un peu plus fréquentables. Il a tendu, déjà, il avait commencé dans son discours de Villepinte, comme il l'a dit, à tendre la main aux Français de confession musulmane. Il essaye d'entrer dans une stratégie un peu plus centrale, qui est celle que conduit également Marine Le Pen depuis des années. Et donc, si vous voulez, moi je trouve qu'il a été bon. Je ne parle pas du fond, hein. Je ne parle pas des solutions qu'il propose pour la France, qui sont souvent pas des solutions du tout, d'ailleurs, selon moi. Mais je pense qu'en termes de communication, il a réussi. Il a vraiment réussi cette émission et il est en train de confirmer qu'il est un animal politique et pas que un intellectuel qui a écrit des bouquins. Donc ma conviction de toute façon, c'est que ça va être très très serré dans les semaines, dans les mois qui viennent, et que entre Marine Le Pen, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron,
peut-être Christiane Taubira maintenant qui rentre en jeu.
Absolument. Absolument, enfin c'est pas encore fait, mais effectivement elle va certainement être un peu une carte alternative à Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg. Mais voilà, rien n'est joué, le suspense continue et ça va certainement être très serré jusqu'à la dernière minute.
Eh bien, merci pour ce billet d'humeur, mon cher Michel Taube. Vous êtes le patron d'Opinion Internationale, le média en ligne, mais également aussi l'éditorialiste qu'on retrouve un peu plus sur les plateaux de télévision. Merci Michel Taube et à bientôt. Merci, je vous souhaite un excellent week-end.
Merci à vous aussi.
Il est 19h35, on se retrouve dans une poignée de minutes justement avec Aminsa, avec Nadia Cherif, avec Mehdi Jaziri et enfin avec Abdeslam Itach et vous-même au 01 53 48 3000. On parlera de ce sondage qui donne une percée de Valérie Pécresse qui se confie un peu plus chaque jour. Est-ce qu'elle peut évidemment bousculer Emmanuel Macron, puisqu'elle est d'ores et déjà 17% créditée? On en parle dans une poignée de minutes, y compris avec le témoignage poignant de ce président de la Confédération des commerçants. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
Et les 19h39 précisément sur Beurre FM, Les Informés, c'est avec Nadia Cherif, avec Abdeslam Itach, avec Amine Saa et enfin avec Mehdi Jaziri. Le quad neuf, je vais dire le face-à-face continue. D'ailleurs, ils sont quatre ce soir. Une femme parmi nous et on va continuer de parler des femmes justement en sachant que ce sondage avec le préoccupation, on le sait, la principale préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et Valérie Pécresse qui fait une véritable percée puisque justement elle est créditée de 17% face à Emmanuel Macron 24% hein, à peine, devant Marine Le Pen 16%. Alors faisons un tour de table, Mehdi Jaziri.
Moi, avant de commencer à parler de Madame, Pécresse, j'aimerais juste dire deux mots sur.
Un coup de gueule là.
Sur les sondages, oui, tout à fait. Vous
Allez-y.
Avez compris.
Faites votre coup de gueule.
Moi, je vais vous dire sincèrement, je trouve que les sondages commencent à être de plus en plus grotesques. Voilà, sincèrement, ils sont inutiles. Bah, parce qu'en fait, si vous voulez, ils changent tous les mois, toutes les semaines. Ça n'avance à rien. À la limite, qu'on a un sondage à quelques jours du résultat d'une élection, par exemple, là, oui, d'accord. Mais à quoi ça sert maintenant, si ce n'est que dire, bah, regardez, un tel est tout en bas, n'allez pas voter pour lui, ça va servir à rien. C'est vrai, qui est-ce qui va se dire aujourd'hui, je vais aller voter pour un candidat qui fait 0,2%? À quoi ça va servir?
Mais est-ce que le sondage est une référence?
Vas-y, Chérif.
Non, mais. Oui, David. D'accord, mais bien sûr. Mais
c'est
moi, je pense que même au-delà de ça,
certaines personnes qui étaient censées ne jamais être sur la scène médiatique avec des pourcentages très très bas au niveau des sondages, et pourtant ils ont eu de très beaux scores.
Oui, mais il faut aussi se poser la question. Même si c'était une référence, même si ces résultats étaient bons, même si tout était bon, aujourd'hui, à quoi ça sert à part faire des débats comme ça, dire bon, je sais pas, Emmanuel Macron va gagner. Bon, bah dans deux semaines, oh mince, c'est Zemmour qui va gagner. À quoi ça sert?
D'autant plus que les Français détestent que les sondages décident à leur place.
Oui.
Et Lionel Jospin et Édouard Balladur vous en diront quelque chose.
Bien
parce
sûr,
qu'ils avaient été élus présidents. C'était juste une procédure administrative que de procéder aux élections.
On va pas aussi loin, Xavier Bertrand, récemment.
Oui, Xavier Bertrand pour la primaire. Et donc, vous voyez, les Français ne se laissent pas déposséder quand même l'élection. Mais en même temps, il est vrai qu'il y a une part de personnes qui manquent peut-être un petit peu de culture politique et qui s'accrochent à ce qui se présente lorsqu'ils vous regardent à la télé un sondage qui dit que tel candidat est en tête. Et en effet, tu as raison, le candidat qui est à 0,2, on se dit ben, je vais faire un vote utile. Le 0,2, je ne vais pas annihiler ma capacité à changer les choses. Je vais plutôt voter pour celui qui est à 19%. Mais c'est quelque chose de subjectif.
Oui,
et en plus de ça, sur le vote, juste une précision, et ça a été la bête noire des sondeurs. Pendant longtemps, le Front National, c'était le parti de la honte. Et quand les gens étaient sondés, qu'on leur posait la question « Pour qui voterez-vous ?», ils ne disaient pas le Front National. Et on s'est souvent retrouvés avec des scores incroyables parce que justement, les sondeurs...
Amine ça.
Bah, moi, très sincèrement, je n'y crois pas un seul instant à cette tendance. D'abord parce que c'est une tendance qu'on observe que dans les sondages. Et je rejoins ce que disait Mehdi Jaziri à l'instant. C'est que, et en plus, on le voit sondage après sondage, visiblement les sondeurs s'influencent mutuellement. Qu'est-ce qui se passe réellement avec Mme Pécresse? C'est qu'elle va être confrontée quand même à une difficulté majeure parce qu'elle est prise en étau à la fois entre Emmanuel Macron, qui a fait quand même une politique de droite très proche de ce que les idées défendues par les Républicains, et de l'autre côté, les candidats de l'extrême droite que sont Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et quel choix elle va faire, Mme Pécresse? Ben moi, je crois qu'elle va faire le choix de durcir son discours, notamment pour aller chasser sur les terres du Front National et de l'extrême droite. Et notamment parce qu'elle a un petit garde-fou à ses côtés qui est Éric Ciotti. Et donc, moi je crois très, très, très concrètement que Mme Pécresse n'apparaîtra plus à partir de ce moment-là comme une alternative crédible au président de la République. Et c'est en cela que la gauche elle a un coup à jouer, notamment en présentant un projet ambitieux et une candidature de réunification autour de trois grands axes que sont l'égalité, la justice sociale, la place de la démocratie et bien évidemment cette question importante qui est l'écologie, la transition écologique.
Mehdi Jaziri.
Moi je vais revenir du coup sur le sujet principal parce que je parlais des sondages et non pas de Mme
Pécresse. C'est très intéressant ce que vient de dire.
Oui.
C'est vrai, c'est pas faux.
Mais moi je vais vous dire concrètement, je pense que c'est trop tôt pour se dire en fait si Mme Pécresse va être une véritable menace pour Emmanuel Macron ou pour Éric Zemmour. Je pense qu'en fait tout va dépendre d'un débat. Tout simplement.
On a vu la majorité. Stade, elle ne propose rien.
Oui, on a vu la majorité des candidats, soit ils se sont cassés la gueule avec
des fonctionnaires.
Oui, mais soit ils se sont cassés.
Oui, au moment où on a plus besoin de services publics. Oui,
justement, où les gens demandaient plus de services publics.
Je posais la question tout à l'heure, et pardonnez-moi, je me sens un peu obligé de vous la poser, évidemment. Là, maintenant, dans les informés, les quartiers populaires, est-ce qu'ils se sentent concernés par cette campagne présidentielle? Est-ce qu'ils se sentent français? Parce que je dialoguais avec quelqu'un, j'ai échangé avec lui, avec un ami, et justement, chacun se sent, évidemment, pas français, parfois algérien, parfois marocain, parfois tunisien, parfois sénégalais, parfois ivoirien, parfois malien. Et est-ce qu'il n'y a pas une espèce de torturé, on ne sait pas d'où qui on est, en fait?
Il y a de la schizophrénie. Un certain monsieur Seguin disait qu'il se sentait schizophrène parce qu'il est français et qu'il a aussi une culture, il avait une culture d'autre. Donc, moi, j'ose dire que quand on a une mixité en soi, on a une certaine schizophrénie parce qu'on aime les deux, voire les trois, voire les quatre, qu'importe.
Mais est-ce qu'ils se sentent français?
Mais ils se sentent français, mais ils iront voter et ils sont français quand il y a des élections municipales, présidentielles, etc. Là, on leur demande d'aller voter.
D'abord algérienne, marocaine, tunisienne, sénégalaise, ivoirienne, etc. Vous voyez ce que je veux dire?
Il y a une chose que je ne comprends pas. Lorsque l'Italie bat la France en Coupe du Monde et que des franco-italiens sortent avec le drapeau pour fêter justement cette victoire en finale de Coupe du Monde, on ne se pose pas la question de leur francité, vous voyez. Et on se pose toujours la question lorsqu'il s'agit d'un Africain, d'un Nord-Africain ou d'un Subsaharien. Vous voyez, il est là le problème. Il est là le problème. Il faut juste arrêter
de... Alors pourquoi ils ne s'intéressent pas? Pourquoi ils divorcent avec... Pourquoi ils ne s'intéressent pas à l'élection?
Adil, vous savez, on a une richesse culturelle, on est héritier de...
J'en débatte de ça, moi, régulièrement.
Et on reste français. Et en effet, si je peux profiter, moi, justement, de cette antenne pour encourager les gens à s'inscrire sur les listes électorales, ne vous laissez pas déposséder. Allez voter, renverser la table, changer les choses. Ne vous contentez pas de vous plaindre. Et moi, je vais vous dire une chose. Les gens qui ne votent pas perdent le droit de se plaindre. Donc... Allez-y, avant le 31 décembre, allez vous inscrire sur les listes électorales.
Oui, mais il faut aussi que les personnes qui sont issues des banlieues ou des endroits, parce qu'il n'y a pas que les banlieues,
mais
il y a aussi
les banlieues. Il y a 20 ans, j'ai acheté, et c'est pas pour autant que je suis pas insensible à la détresse des gens.
Oui, mais même, ça veut dire aussi qu'il faut aider ces personnes-là à vivre et avoir des opportunités professionnelles, scolaires, éducatives, etc. Sauf qu'aujourd'hui, moi qui suis dans des milieux associatifs, aujourd'hui, les jeunes me disent, je ne vais pas aller voter, ça ne sert à rien. Les écoles, je n'ai pas d'opportunité, j'ai des difficultés. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout leur mettre sur un plateau.
Mais à un moment donné, il y a 30 ans.
Justement, c'est à nous.
Qui a été fait il y a 30 ans.
Oui,
lorsque vous appelez Mohamed,
il faut changer les choses.
Vous faites une demande de logement, vous vous retrouvez en Seine-Saint-Denis.
C'est vrai.
Voilà, c'est ça le problème. Quand on se retrouve, et moi, je n'ai pas de problème à le dire, mais lorsque l'on a dans un quartier un bâtiment Bamako et un bâtiment Alger, moi, ça me pose problème. Vous voyez, et en fait, ça,
c'est
on l'a construit.
Aujourd'hui, c'est à nous aujourd'hui
c'est pas les habitants, mais ce sont les bailleurs sociaux.
Oui, mais il faut changer les choses parce que c'est facile de parler depuis 40 ans.
Mais comment
on a un élu à côté,
Franchement,
on va pas refaire l'histoire. Enfin, moi, pour moi, les quartiers populaires sont pleinement dans la nation. Voilà, il faut le dire. Aujourd'hui, il y a certains désintérêts. Il y a un désintérêt, pourquoi? D'abord, il n'y a pas un réel désintérêt. Aujourd'hui, les électeurs, notamment dans les quartiers populaires, ils sont orphelins. Voilà, c'est parce que la gauche, avec la recomposition politique qui est en train de s'opérer, est dispersée et évidemment ne parle plus aux quartiers populaires.
La gauche a un petit peu trahi les quartiers.
Non, mais c'est un vivier.
Mais qui a porté les plus grandes réformes depuis 30-40 ans dans ce pays? Qui a fait l'abolition de la peine de mort? Qui a fait les 35 heures? Qui a fait les congés payés? Enfin, je pourrais en citer.
Si tu veux qu'on parle du passé de Mitterrand,
s'il vous plaît.
On part dans un débat complètement parallèle.
Dites-moi sur les quartiers et le désamour.
Je vais vous le dire.
Dites-moi.
Sincèrement, le problème, c'est pas la gauche et la droite. Le problème, c'est que vous dites disiez que pour vous, les quartiers sont clairement au sein de la France. Pour vous, oui, mais pour les gens de quartier, non. Moi, je vous dis sincèrement, pour les gens de quartier, ils se sentent extérieurs à tout ça. Moi, je viens de quartier, j'ai parlé à un ami à moi, un ami d'enfance, et je lui ai dit, est-ce que tu comptes aller voter ? Il m'a dit, pourquoi faire ?
C'est ça.
J'ai entendu Zemmour et Front National à table avec des personnes d'origine étrangère.
Mais tout ne tourne pas autour de Monsieur Zemmour, tout ne tourne pas autour de la gauche. Il faut parler de social, sur le terrain, pardon, de terrain. Quel impact ça a dehors ? Excusez-moi, je vais vous dire sincèrement.
Allez-y.
Je pense sincèrement que aujourd'hui, il faut aller dire aux gens qui ne veulent pas d'aller voter que ce n'est pas qu'un droit. Voter, c'est un devoir.
Il me reste quelques minutes
et que sinon, je rejoins ce que vous avez dit. Ils n'ont pas à se plaindre. Parce qu'ils n'ont pas exprimé ce qu'ils voulaient.
Au micro de BFM TV, je voudrais entamer vite ce dernier sujet parce qu'il me tient évidemment avec beaucoup d'émotion, ce monsieur qui est le président de la Confédération des commerçants de France. Il s'appelle Francis Palombi. Il était au micro de BFM TV. Écoutez, il est encore en pleine... Évidemment, il vient de se rétablir tout doucement. Il est à l'hôpital en ce moment. Il va passer encore quelques jours jusqu'à mardi prochain. Et voilà ce qu'il fait comme déclaration. Écoutez.
Je veux, si je peux, toucher l'ensemble des citoyens sans prétention, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Il n'y a qu'un mot, parce que c'est une question de vie ou de mort.
Vie ou de mort. Il a passé 3 jours en service de réanimation. Lui qui était jusqu'ici pas du tout au vaccin, il n'était pas vacciné. Et il s'est retrouvé évidemment en catastrophe, à passer 3 jours horribles. Il le raconte d'ailleurs, c'était très poignant, très émouvant. 3 jours horribles, il ne pensait même pas d'ailleurs survivre. Alors qu'on est en train de parler de la troisième, la quatrième dose à venir, etc. Et qu'on est en train de parler de cette vaccination pour les enfants entre 5 et 11 ans, 5 et 12 ans. Un tour de table justement sur ceux qui ont des faux passes sanitaires notamment et qui peut-être à un moment l'État dit qu'il va falloir être indulgent avec eux et que l'idée et l'objectif c'est de les pousser à se faire vacciner. Qu'est-ce que vous dites? On fait un tour de table.
D'abord c'est courageux de sa part justement de témoigner dans un média important pour justement alerter sur le danger. Mais je tiens aussi à dire qu'il y a aussi beaucoup de familles, vous savez, qui vivent avec le remords, qui à un moment ont dit « je ne me vaccine pas ». Il n'est pas question que mes parents ne se vaccinent.
Ça déchire les familles, ça.
Oui, complètement. Ils ont perdu leurs parents et allez les voir. Ils sont rongés par le remords en se disant que j'aurais peut-être dû vacciner mon père ou ma mère, que j'étais enterré. Donc, ce n'est pas une chose facile.
Il le dit, mais il faut absolument...
Vous savez, nos parents, bon... En tout cas, c'est mon cas, peut-être le vôtre, je ne sais pas. Mes parents sont illettrés. Et ils s'en remettent à qui ? Ils s'en remettent à leurs enfants. Mais si nous, on commence à dire n'importe quoi à nos parents en disant, écoute, le vaccin, c'est des bêtises, surtout ne te vaccine pas, et que l'on se retrouve dans ce drame à perdre ses parents, voyez un petit peu le drame.
Oui.
Enfin, c'est une catastrophe.
Tout à fait, mais moi, je rebondis là-dessus. On a tous vécu l'année dernière au pic du pic du pic. Beaucoup de gens autour de nous ont eu des parents, des oncles, des frères, des sœurs décédés autour de nous. Oui. Autour de nous. Donc, c'était un cousin, c'était un oncle, c'était la voisine qui a perdu quelqu'un. Donc, la vaccination, à mon sens, est importante. Maintenant, je pense qu'il y a une défiance et un manque de confiance vis-à-vis de la parole de l'État. On a eu régulièrement des annonces qui se contredisaient. Et aujourd'hui, c'est justement le vivier à contradiction.
Amine Sarr.
Évidemment, il faut se vacciner. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs d'en parler à ce micro lorsqu'on a discuté de la vaccination des enfants. En matière de santé, moi, j'ai tendance plutôt à écouter les sachants, à écouter les médecins, à écouter les épidémiologistes. Et vous allez me dire, bah oui, ils sont parfois pas toujours d'accord, mais c'est pas grave, c'est aussi ça, c'est la confrontation d'idées qui a fait avancer la science jusqu'ici. Et moi, je trouve l'attitude du gouvernement face aux réticences vraiment inappropriée. Celles et ceux qui se posent des questions légitimes sur la vaccination, ils doivent pas être dénigrés. Au contraire, ce qu'il convient de faire, c'est de gagner la confiance des gens qui doutent si on veut gagner contre cette épidémie et contre ce virus. Ça veut dire quoi ? Bah, tout simplement, il faut lever les ambiguïtés, il faut combattre les fake news et surtout, il faut convaincre par la démonstration. C'est ça la réalité. Je note par ailleurs que l'immense majorité des Français, parce qu'on pointe souvent ceux qui sont pas vaccinés, mais l'immense majorité des Français sont vaccinés aujourd'hui. Et par ailleurs, ils ont fait preuve de beaucoup de responsabilité quant à la mise en œuvre des gestes barrières, à la distanciation sociale. Ils se testent régulièrement et évidemment, ils se vaccinent. Mais je crois qu'il faut pas les pointer du doigt et les montrer.
Absolument. Allez.
Je tiens à préciser avant de commencer que
il faut aller vite, mon
oui, chat. Que ce n'est pas la première vidéo qui a été faite, que ce n'est pas le premier appel au vaccin qui a été fait. C'est pas parce que c'est Monsieur Palombi, si je ne me trompe pas, qui a fait cette vidéo, qu'il faut voilà s'alarmer. Je pense que sincèrement, il faut aller se faire vacciner. Ça fait des mois et des mois qu'on le dit. On a des anti-vax, on a des gens qui ne sont pas forcément réticents de base au vaccin, mais qui sont réticents à l'État.
Et qui s'interrogent.
Qui s'interrogent ou qui sont du moins plus énervés contre le gouvernement en général. Je pense que ça, justement, il faut commencer à prendre ses responsabilités, il faut commencer à informer et il faut que chacun en tant que citoyen on s'informe. Il faut pas attendre que ce soit que le gouvernement qui nous informe parce qu'encore une fois, on vit dans une démocratie. Pouvoir est au peuple.
Bien sûr.
Voilà.
Merci Mehdi Jaziri, jeune journaliste, donc effectivement, qui reviendra très bientôt. Merci à Amine Saha, maire adjoint de la ville de La Courneuve.
Merci Adil.
Au plaisir. Merci à Nadia Chérif.
Merci Adil.
Qui est engagée complètement dans la vie associative et militante. Merci à bientôt aussi également. Merci à Abdeslam Itage. Attendez.
Ça va venir.
Le modem.
On n'a pas le temps, dépêche-toi.
Le Valdoise modem, c'est déjà pas mal.
Vice-président du modem, 95.
C'est bien, j'ai tout dit.
C'est ça.
Voilà. Donc ça va, ma mémoire ne flanchit pas. Ça va. À la réalisation, c'était donc Giovanni. Tout de suite, c'est Bilal Nedman et Time Sport de 20h à 21h. Je vous souhaite un excellent week-end. Certains d'entre vous, d'ailleurs, retrouvent le chemin des vacances. On leur souhaite de passer d'excellentes vacances. Profitez-en bien. Vraiment, c'est le moment aussi de se retrouver, de s'évader, de s'aérer le cerveau. C'est aussi, ça contribue évidemment au bien-être. Donc, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Et d'autres qui sont encore au travail, on leur souhaite bon courage. Eh bien, nous, on sera là parmi vous dès lundi prochain pour vous accompagner encore pour une semaine. Eh bien, prenez soin de vous. Bon week-end. On ne lâche rien. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.